Bonjour à tous. Hop là. Et aujourd'hui, on revient dans notre étude. Et donc aujourd'hui, on reprend notre étude sur le Beth Amikdash. On est en Rishon. Et donc, on reprend notre visite au Beth Amikdash, troisième partie. Alors, dans notre première étude, on avait fait un survol global des épopées du Beth Amikdash, des différentes époques. La semaine dernière, on a évoqué les différentes parties du Beth Amikdash avec ma superbe maquette. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus maintenant dans l'intérieur du Beth Amikdash. Parlons un petit peu de qu'est-ce qu'on peut y trouver, pas en termes de c'est quoi les différentes zones, mais quels sont les différents ustensiles particuliers qu'on va trouver au Beth Amikdash. Alors, la première chose qu'on va trouver au Beth Amikdash, lorsqu'on va rentrer dedans, alors je vous rappelle que nous avons des objets et des gens qui sont particuliers au Beth Amikdash. Et donc, lorsqu'on va rentrer au Beth Amikdash, la première chose qu'on va trouver, c'est Monsieur Cohen. Monsieur Cohen qui va nous accueillir à l'entrée du Beth Amikdash. Dans chaque porte du Beth Amikdash, il y a un Cohen qui est là pour accueillir les visiteurs, les gens qui vont arriver, qui vont amener des corbanotes ou qui viennent simplement s'émerveiller de la kedusha qu'on peut ressentir là-bas. Et lorsqu'on voit Monsieur Cohen arriver, eh bien, il y a quelque chose d'assez incroyable. Il se présente à nous avec des habits très particuliers. Monsieur Cohen a quatre vêtements. Alors, il a les pantacours, je ne vais pas appeler ça des pantalons, c'est des pantacours qui lui arrivent au mollet. Donc, le pantacour, il a également une tunique qui va au-dessus, il a également un turban et il a également une ceinture. Achav, le turban, c'est pas une petite kippa, hein, c'est déjà du bon turban. Et pour ce qui est de la ceinture, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, tous les habits sont blancs, ils sont faits de laine, mais dans la ceinture, eh bien, il y a quelque chose de particulier. Dans la ceinture, eh bien, la ceinture n'est pas blanche, elle est avec des reflets bleus, voire rouges, puisqu'elle est faite avec des fils et de lin et de laine. Et elle va être colorée avec le fameux terrelet dont on va parler dans quelques secondes. Oui, la ceinture des Kohanim est faite de ce qu'on appelle Sha'atnez. Sha'atnez. Sha'atnez, c'est un interdit de la Torah. Nous n'avons pas le droit dans la Torah de nous habiller avec des vêtements mélangés de lin et de laine. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mélanger le lin et la laine? Eh bien, la réponse qu'on a l'habitude de donner, en général, c'est de dire « Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est un choc. » Ce qui veut dire « Il n'y a rien à y comprendre, on ne peut rien y comprendre. » Ce qui est une terrible erreur. Il est évident que Sha'atnez est un choc. Mais attention, attention, le fait que ce soit un choc ne veut absolument pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. Absolument pas. Chok veut dire que, à la différence des chukim, des mishpatim, des lois que l'homme peut entendre de manière générale, eh bien, les chukim, même s'il y a des choses qu'on comprend, eh bien, il y a des dimensions qui nous échappent également. Mais il y a des choses à comprendre. Et il ne faudrait pas se dire que puisque ce sont des chukim, eh ben on ferme le livre et on n'en parle plus. Par exemple, pour ce qui est du Sha'atnez, eh bien, je vous montre ici. Je vous montre ici, donc, Monsieur Cohen. Voilà. Monsieur Cohen avec sa ceinture faite de lin et de laine colorée par le fameux Chilazon. Mais, deux secondes. Le Sha'atnez, pourquoi est-ce que ce serait interdit? Alors, encore une fois, ce que je vais vous dire là maintenant n'est pas la seule explication, mais c'est quelque chose qui me paraît assez évident. N'oublions pas que la Torah est donnée d'abord et avant tout à une identité, à un peuple juif qui sort d'Égypte il y a de cela 3500 ans. Il est évident que le monde d'association d'idées qui est le leur n'est pas le nôtre. Pour nous, mélanger le lin, ne pas mélanger le lin et la laine, ça veut pas dire grand-chose, dans la mesure où on s'habille en coton, on s'habille en acrylique, on s'habille en, en plein de choses. Et donc, la matière du vêtement nous importe finalement peu, ne veut pas dire grand-chose pour nous. Peut-être à la limite ton niveau socio-économique, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors que lorsque tu te trouves en Égypte, dans un pays où tout le monde s'habille en lin, parce que le lin est produit par les matériaux qu'on trouve là-bas, le roseau, et ainsi de suite, et donc bah là-bas, ça pousse, et donc là-bas, eh bah, t'en trouves. Tout le monde s'habille en lin en Égypte. Par opposition, les Égyptiens ne s'habillent pas en laine, parce que pour s'habiller en laine, il faut avoir des troupeaux. Or, d'après le livre de Bereshit, nous savons que c'est Tovat Mitzrayim, c'est une abomination pour l'Égypte qui idolâtrait le dieu Amon à tête de mouton. Donc, bah, les Égyptiens s'habillent en lin. Mais qui s'habille en laine? Les bergers, qui ont des troupeaux. Et ce sont les Hébreux. En d'autres termes, lorsque tu sors d'Égypte et qu'on te dit « il est interdit de mélanger le lin et la laine », eh bien, dans la tête d'un juif qui sort d'Égypte, c'est évident, nous n'avons pas le droit de se assimiler. L'assimilation est pointée du doigt. On ne mélange pas l'Égyptien, l'Égyptitude avec le judaïsme. Alors évidemment, je ne dis pas que ça n'est que cela, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose d'assez évident là-dedans. Et donc, nous avons ces quatre habits de M. Cohen. Mais ces quatre habits remplissent une fonction. Alors que les mirnasaim, les pantalons pantacourts que j'ai appelés, viennent nous préserver des problèmes liés à, aux problèmes de mœurs, puisque c'est ce qui couvre les parties intimes, alors que la tunique viendra nous préserver des problèmes de meurtre, ce tablier qui était également porté par les prêtres d'idolâtrie sur lesquels le sang de la Avodah Zara, eh bien, était imbibé. Je vous rappelle que dans le Kohen au Beth Amikdash, s'il a deux taches de sang sur son habit, il ne peut plus servir au Beth Amikdash. Il doit aller se changer et laver son vêtement. En d'autres termes, ici, c'est un véritable tikkun. Il n'y aura pas de sang qui sera amené à un sang de destruction qui sera sanctifié. De la même façon, le turban, eh bien, est là pour nous expliquer et nous rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, Tamid. Aujourd'hui, eh bien, nous avons pris ce minagla des Kohanim qui portaient cette kippa au Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait que les Kohanim qui portaient quelque chose sur la tête. Et aujourd'hui, eh bien, Baruch HaShem, le minag s'est développé dans tout le peuple juif. Et enfin, il y a cette ceinture. Cette ceinture qui est si particulière, qu'on a évoqué, qui faisait 32 coudées, 16 mètres. Il fallait l'entourer. 32 coudées, c'est la guématria, la valeur numérique du mot « lève ». Et cette ceinture, effectivement, était keneged à lève face aux pensées profondes de l'homme qu'il fallait rester dans la kedusha. Donc, M. Cohen nous accueille lorsque nous arrivons au Beth Amikdash, le voilà, et à ce moment-là, eh bien, nous rentrons dans le Beth Amikdash. Nous rentrons au Beth Amikdash et, comme on l'a dit, on va pénétrer d'abord dans cette Ezrat Nashim. Et dans cette Ezrat Nashim, eh bien, on va attendre. On va attendre quoi? Eh bien, on va attendre tout simplement que la journée de travail commence. Quand est-ce que commence la journée au Beth Amikdash? Au lever du soleil. Tout va bien. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et c'est là que nous allons développer quelque chose d'absolument incroyable. Il y a au Beth Amikdash un objet fantastique qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas demandé par la halakha, mais qui a été donné par une dame incroyable. Et nous allons en parler maintenant. Ça va nous mettre dans l'ambiance de quand on commence la journée au Beth Amikdash. Vous savez, Shacharit, la tfila de Shacharit, s'appelle Shacharit parce qu'elle est faite Beshachar. Shachar, c'est le lever du soleil. Et à l'époque du Beth Amikdash, il y avait évidemment un korban qui s'appelait korban tamid shel shachar. Tous les matins, au lever du soleil, il y a un korban. Le seul problème, c'est que le Beth Amikdash, et on en a parlé, le Beth Amikdash, par opposition à tous les autres temples d'idolâtrie de l'époque, alors que eux sont tournés d'ouest en est, c'est-à-dire que leur saint des saints à eux, les idolâtres se trouvent toujours à l'est pour bien nous rappeler qu'ils sont serviteurs du soleil qui se lève à l'est. Eh bien, nous, le Beth Amikdash est d'est en ouest. Le Kodesh HaKodeshim se trouve à l'ouest. Le début de la journée commence lorsque le soleil se lève. Comment est-ce que tu le sais? Lorsque les portes du Beth Amikdash s'ouvraient le matin, avant le lever du soleil, pour permettre aux gens d'arriver et d'être à l'heure au début, eh bien on ouvre les portes. Il y avait donc cette porte-ci qui était ouverte. Je la montre bien ici. Voilà. Cette porte ici, voilà, était ouverte et permettait à tout le monde de rentrer à l'intérieur de la Ezrat Nashim et de la Hazara. C'est-à-dire que cette porte donne, de l'autre côté, il y a la Ezrat Nashim, et là, nous sommes dans la Hazara, comme on avait expliqué la semaine dernière. Et donc, cette porte-là était ouverte et restait ouverte. À ce moment-là, eh bien, tous ceux qui veulent donc pénètrent, comme on l'avait expliqué, en fonction de la dimension de pureté qu'ils ont atteint. Et donc, eh bien, ils vont arriver à cet endroit-là. Pas de problème. Mais pour savoir exactement quand le soleil se lève et donc quand on peut commencer, il fallait donc, ben, à un moment donné, se tourner vers l'est pour voir le soleil se lever. Il y a une dame arrivant à Jérusalem, arrivant au Beth Amikdash, qui s'est convertie au judaïsme, qui est la reine Hélène d'Adiabène, qui était donc reine d'un petit pays comme ça, d'Asie mineure, qui a décidé de se convertir au judaïsme, qui est venue vivre à Jérusalem avec son fils, le roi Mounbaz, qui va acheter un territoire incroyable et y creuser une sépulture fantastique qui s'appelle aujourd'hui le tombeau des rois. Et je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais qui a un grand, grand, grand problème aujourd'hui avec l'État français quant à la souveraineté de cet endroit-là, qui a été acheté par les Juifs et donné au peuple juif de manière éternelle, qui aujourd'hui est sous domination de l'État français, mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, eh bien, la reine Hélène va arriver au Beth Amikdash, tel que c'est mentionné dans le Talmud, dans le traité de Souka. Elle arrive au Beth Amikdash et elle voit cela. Elle voit que les gens, au début de la journée du travail, pour savoir quand la journée commence, eh bien, les gens se tournent pour voir le soleil se lever et se dire, ça y est, c'est bon, on y va. Elle dit, mais c'est pas normal. Les gens tournent le dos au Kodesh à Kodashim, pour commencer la journée. Il y a quelque chose qui sonne pas bon. Dans mes expériences personnelles, vous savez, j'ai accompagné des centaines de groupes à Masada, au lever du soleil. Donc, tu les fais monter, machin, il fait encore nuit, nanana, t'arrives en haut, et là tu te mets à un point d'observation, et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est eh ben, de faire la tfila. Et ceux qui veulent participer avec moi à la tfila à ce moment-là, eh bien on fait une tfila au lever du soleil à Masada, c'est une tfila extraordinaire. Seulement, quand on est à l'endroit où on veut prier, il faut que j'explique aux gens, non mais attendez, on ne se tourne pas vers là où il y a le soleil. C'est-à-dire que pour prier, quand on est à Masada, il faut se tourner vers le nord, même vers le nord-ouest. Et donc, tu peux pas rester face au soleil pour voir le lever du soleil et faire ta amida à ce moment-là. Non, faut se tourner dans le bon sens. Et bien, c'est ce que dit ici la reine Hélène, ça se fait pas. Et donc, que va faire Hélène? Eh bien, elle va faire le cadeau d'un objet incroyable au Beth Amikdash. Elle va faire une sculpture comme ça en or avec un gros diamant. Et cette sculpture-là, en or avec le gros diamant, va être disposée ici même. Ici même, et le diamant sera mis à un endroit qui est exactement dans le prolongement de l'ouverture de la porte. Sha'ar Nicanor. Et donc, lorsque le premier rayon du soleil qui pointe au-dessus du mont des Oliviers, en face, pénètre dans, je vous le pose là, pénètre dans la porte de Sha'ar Nicanor, eh bien, il venait directement frapper ce rayon de soleil frappait ce diamant incroyable qui renvoyait un éclat dans toute la Hazara. Et à ce moment-là, tout le monde savait, lorsqu'il y avait cet éclat, cette clarté incroyable, eh bien que c'était le début de la journée. En d'autres termes, les gens n'avaient plus besoin de tourner le dos au Beth Amikdash, de tourner le dos au Kodesh HaKodashim. Ils faisaient face au Mizbeach et au Kodesh devant eux. Et lorsqu'il voyait ce rayon de soleil frapper sur le diamant et donc éclairer toute la Hazara, eh bien, on savait que c'était le moment de commencer. À ce moment-là, on commence les korbanot sur le Mizbeach, qui est donc ici. Voilà. Le Mizbeach que vous pouvez voir ici. C'est là que nous commençons donc les korbanot. Pas de problème. Nous avons déjà parlé longuement la semaine dernière. L'autel, le Mizbeach, avec sa pente et ses kohanim qui montaient, qui faisaient des courses pendant les chayim pour savoir qui allait mériter de faire le korban. Je me permets de rentrer avec vous deux secondes maintenant dans le Kodesh. Nous avons parlé beaucoup des différentes parties du Beth Amikdash. J'aimerais qu'on revienne dans ces parties-là pour parler de certains ustensiles. Nous rentrons donc dans le Kodesh, dans le Echal. Et dans ce Echal, eh bien, comme on l'a dit, il y a trois choses. Qu'est-ce qu'il y a donc dans le Echal ? Trois objets incroyables. Mais tout d'abord, quand je dis trois objets, on parle de la menorah, le chandelier, qui est sur le côté sud, la table des pains, qui est sur le côté nord, et au milieu, le Mizbeach HaZahav, l'autel où on va faire les encens. Ça, c'est vrai dans le Mishkan, c'est vrai également dans le deuxième temple, et ça sera peut-être vrai également dans le troisième. Mais ce n'était pas vrai dans le premier temple. Parce que dans le premier temple, Shlomo HaMelech, qui, Kaniré, avait reçu des dons en veux-tu, en voilà, eh bien, a décidé de, en plus de la menorah, de la table qui était prévue à cet effet, eh bien, de rajouter encore 10 menorotes et 10 tables, comme vous pouvez le voir ici sur cette image. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, mais c'était un ajout de Shlomo HaMelech pour la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que cela veut dire que Shlomo est tombé dans la avéra de Baal Tosif, qu'on n'a pas le droit de rajouter des choses à la mitzvah qu'on nous a demandé de faire? La réponse est non. Baal Tosif, ça aurait été de faire une menorah, non pas avec 7 branches, mais avec 8 branches. Ça, ça aurait été Baal Tosif. Mais de faire des copies de la menorah officielle, ce n'est pas Baal Tosif, parce que la seule menorah qui est allumée en tant que mitzvah, c'est celle qui était censée être là depuis le départ, celle de Moshe, et ainsi de suite. Les autres, on les allume pour faire joli. Ce n'est pas pour faire la mitzvah. Donc, nous avons la menorah, nous avons Shulchan Lechem Apanim et Mizbeach HaKetoret. Et donc, je vais rentrer directement, sans plus attendre, dans la première des trois qu'on va traiter ce matin, à savoir, eh bien, vous l'avez compris, la menorah. La voilà. Menorah Tazav. Eh oui, Rabotai, elle est là, la menorah officielle. Comment ça, la menorah officielle? Comment est-ce que tu sais que c'est la menorah officielle? Peut-être que c'est pas la menorah officielle. N'oublions pas que pour nos amis Chabad, la menorah, elle ressemble à ça. Et oui, grand, grand, grand débat entre les Chabad et le reste du peuple juif. Est-ce que la menorah, Chabad Lubavitch, est-ce que la menorah était faite de branches qui partaient en ligne droite ou est-ce qu'elle était faite de branches arrondies comme on a l'habitude de le voir? C'est un grand débat. C'est un grand débat. Dans la Torah, ce n'est pas mentionné. Pourquoi est-ce que c'est véritablement un grand débat? D'un côté, dans toutes les trouvailles archéologiques que nous avons, eh bien, les ménorotes que nous retrouvons sont représentées de manière arrondie. Partout. Qu'ils soient du 4e siècle, du 5e siècle, du 6e siècle, ce sont des ménorotes arrondies. D'aucuns diront que, oui, mais ça c'est l'influence, c'est ce que disait le rabbi de Lubavitch, c'est l'influence de la culture chrétienne occidentale qui arrondissait tout. C'est un argument qui est assez compliqué. D'autant plus que quand on remonte aux origines, eh bien, on va trouver, pas seulement au 5e, 6e, au 4e, 5e, 6e siècle, des ménorotes, mais on va retrouver également ici. Et ça, vous l'avez peut-être déjà vu dans l'arc de triomphe de Titus à Rome. Eh bien, les artisans romains vont représenter la ménorah des Juifs ramenée à Rome comme étant arrondie. Vous allez me dire, oui, mais ça marche, puisque Bah, c'est Rome. Donc peut-être que c'est vraiment là le début de l'influence de l'arrondi. De la même façon que dans tous les films, on représente les Luchot Abrit comme étant arrondi. Et là, pour le coup, c'est sûr que ça, c'est une influence étrangère. Les Luchot Abrit, les tables de la loi, n'étaient pas arrondies. Elles étaient rectangulaires. Donc, est-ce que c'est le même cas ici, dans la menorah? Ça paraît compliqué, parce qu'il y a énormément de menorahs qui ont été dessinés dans des endroits qui ne sont pas des endroits où l'influence non-juive a tellement pénétré, et on va retrouver quand même des menorahs arrondis. Si vous me prenez, par exemple, les synagogues avec les mosaïques qu'on a retrouvées du 4e, 5e, 6e siècle dans la Galilée, on va trouver des menorahs arrondis. Mais certains diront, oui, mais c'était des synagogues où on retrouvait également des symboles d'idolâtrie, donc tu vois qu'ils étaient influencés. Oui, mais par opposition, les synagogues qu'on a retrouvées dans le sud du pays, par exemple à En Gedi, où il n'y a aucun symbole d'idolâtrie, et tu vois que c'était donc une communauté qui était beaucoup plus préservée, et bien on voit que les menorotes sont aussi arrondies. De la même façon, Rabotai, eh bien, nous avons retrouvé dans le Rova Hérodiani, dans le quartier hérodien, c'est-à-dire un quartier d'habitation de Kohanim de l'époque du deuxième temple, donc des gens qui ont bossé au Beth Amikdash, qui ont vu la menorah, eh bien là-bas, on a retrouvé sur un mur, eh bien, une gravure d'une menorah arrondie. Et donc, eh bien, sur quoi se basent les idées qui disent que c'est une menorah à ligne droite? Eh bien, il y a le Rambam. Le Rambam qui a fait un dessin de la menorah. Et sur ce dessin, un croquis, eh bien, les branches sont en ligne droite. Seulement, le Rambam lui-même va dire qu'il n'est pas là pour dessiner la forme de la menorah, mais qu'il fait un schéma pour expliquer les différentes parties de la menorah, ce qu'on appelle Kaftorea, Brachea, Ve, Gevieha, les différentes parties qui ressemblent à une coupe, à un verre, qui ressemble à une fleur, qui ressemble à un bouton. Et donc, c'est pour expliquer les croquis qu'il a fait ça de manière comme ça. Ceci étant, son fils, Rabbi Avraham ben Rambam, lui prétend que c'était oui ce que pensait son père comme étant la forme de la menorah. Certains diront même que d'après Rashi, eh bien on peut dire que c'était des lignes droites, puisque Rashi dit que les canets, les canines qui partaient de chaque côté, partaient be'alarson, en diagonale. Sauf qu'en diagonale ne veut pas forcément dire en ligne droite. En malasot. Toutes les trouvailles archéologiques, y compris celles de l'époque du Beth Amikdash, nous montrent que les menorahs ont toujours été représentés de manière arrondie. Et c'est la raison pour laquelle le Machon Amikdash, qui reconstitue tous les objets du Beth Amikdash, eh bien, ont décidé de la refaire de cette forme-là. C'est la raison pour laquelle également l'État d'Israël a choisi de prendre comme symbole la menorah avec cette forme-là, puisque c'était la menorah qui était représentée dans l'Arc de Triomphe de Titus, et il y a fort à parier que les hommes qui ont fait l'Arc de Triomphe, eh bien, ont tout simplement gravé ce qu'ils ont vu. C'est beaucoup plus rationnel de dire cela que de dire qu'ils ont vu quelque chose, mais qu'ils ont gravé autrement, juste parce que bizarre. D'autant plus que le reste de la gravure semble assez correct au niveau historique. Donc quoi, juste la menorah? Dur. Cette menorah était donc faite en or. Est-ce que quoi, il s'agit d'un énorme morceau d'or qu'on a taillé? Peut-être. Aujourd'hui, au Machon Amikdash, puisque nous avons les moyens de faire chauffer l'or et de le rendre liquide, eh bien, on a tout simplement moulé la menorah et y coulé de l'or. Ça permet d'avoir besoin de beaucoup moins d'or que si c'était un bloc d'or que tu tailles, bien évidemment. Rabotai, cette menorah qui existe aujourd'hui, qu'on peut donc voir dans la vieille ville de Jérusalem, est donc cachère. Comme tous les ustensiles que le Machon Amikdash a refait, ils sont cachères, c'est-à-dire prêts à l'emploi au Beth Amikdash. On va reconstruire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas retrouver la menorah qui est peut-être un jeu au Vatican quelque part? Peut-être. Et donc peut-être que celle du Machon Amikdash, on ne l'utilisera pas. Mais le fait est qu'elle est cachère. La menorah d'un côté, nous avons également, eh bien, la table des pains, Shulchan Lechem Apanim. La voilà. Voilà la Shulchan. Et à côté, vous pouvez voir les Kohanim qui amènent le pain. Nous, on est tellement habitués à faire des chalotes tressées qu'on en a oublié que le pain, les chalotes du Beth Amikdash, n'étaient pas du tout en forme de tresse. Ils étaient au contraire en forme comme ceci. Alors, il y avait une technique pour faire ces chalotes-là, secret qui se gardait de bouche de druide à oreille de druide. Seules certaines familles de la Kéouna savaient comment on le faisait. Aujourd'hui, moi, je peux t'assurer que, bon, déjà, mes chalotes, elles sortent pas géniales, mais j'arrive pas à faire ça. Hein. Maintenant, qu'est-ce que ça représente? Si la menorah représente la chochma, la shulchan représente l'abondance matérielle. Et regardez bien cette shulchan. Regardez bien cette shulchan lechem apanim, parce que lorsqu'on regarde de près, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs étages. Un, deux, 3, 4 et également l'étage du bas. 5 étages. 5 étages, donc ça veut dire qu'on va pouvoir poser à chaque fois 6 halotes. Donc ça fait 12 halotes, Keneged face aux 12 tribus d'Israël, ben c'est bien. Mais il y a ici donc 5 étages. Et c'est très intéressant parce que ces 5 étages, à chaque fois il y a 3 tiges de métal doré sur lesquelles on va poser les halotes. Sauf le dernier étage où il n'y a que 2 tiges. La table représente l'abondance matérielle. Seulement, d'après le judaïsme, cette abondance matérielle qui nous vient directement de Dieu doit, pour pouvoir sortir de la terre et être utilisée, eh bien, y voir une participation de l'homme. Vous avez peut-être déjà remarqué que les Sfaradim, particulièrement, lorsqu'ils font le Birkat Hamazon, ou lorsqu'ils disent « Ashrei Yoshev Vetecha » et qu'ils arrivent au verset « Potach et yadecha ou masbia le chol chay ratzon, eh bien, ils montrent leurs mains. En fait, c'est les restes d'un minag très ancien, qui n'était pas de faire mais qui était de mettre ses mains comme ça, comme un Playmobil, comme des mains de Playmobil, et de se les regarder. Au moment où tu dis potach et yadecha ou masbia le chol chay ratzon. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, quand vous regardez le pain du Beth Amikdash, ça ressemble à ses mains de Playmobil. Et quand on regarde la table, eh bien, on voit qu'il y a 2 rangées pour symboliser les 2 mains de l'homme qui vont travailler, 5 étages, les 5 doigts de la main, avec dans chaque étage 3 tiges qui représentent les 3 phalanges, sauf le dernier étage où il n'y a que 2 tiges pour représenter les 2 phalanges du pouce. En d'autres termes, la Shulchan Lechem Apanim est là tout simplement pour nous rappeler que c'est à l'homme, eh bien, de parfaire la création du monde. La chef à l'abondance nous vient de Dieu et c'est à l'homme maintenant, eh bien, de bosser pour la rendre, ben, concrète. Il y a donc la menorah, il y a la table et il y a également le Mizbeach Azahav. Le voilà, Mizbeach Haketoret. C'est l'autel sur lequel on emmenait l'encens. Vous remarquerez donc qu'il y a dans le Eichal les sens qui sont en ébullition. La vue avec la menorah, il y a la bouche avec l'Echem Apanim, l'odorat avec la Ketoret. On est vraiment en plein dedans. Cette Ketoret était formée de 11 épices. Il y avait là aussi, une technique spéciale pour mélanger avec une quantité particulière chaque épice. Là aussi, secret de bouche de druide à oreille de druide, sur certaines familles de Kohanim le connaissaient ce secret. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment c'était fait. Mais t'inquiète pas, on saura. Quoi qu'il en soit, 11 épices. Dans ces 11 épices, eh bien, il y en avait une qui est très particulière, qui s'appelle la chelbena. Je crois qu'en français, on appelle ça le galbadium, mais j'en sais rien. La chelbena. Et c'est très bizarre parce que cette chelbena, elle donnait une mauvaise odeur. C'est une épice qui donne une mauvaise odeur. La Mishnah nous dira « Ve'im chisar echad mikol samamena chayav mita ». C'est-à-dire, s'il manque une des épices dans la ktoret et que tu le fais, tu es passible de mort. Ça montre bien que les gens auraient pu penser qu'il y a une épice qu'on ne veut pas mettre. C'est laquelle? Cette fameuse chelbena. Parce que ça pue. Seulement, nous disent nos sages, et c'est repris par exemple, dans le Baal Turim, que la chelbena s'efface, c'est par rapport aux Rechaim. Les Rechaim qui, pris séparément, donnent une mauvaise odeur. par leurs mauvaises actions, mais chas v'shalom de les faire sortir du peuple juif. Car à ce moment-là, ce ne serait plus le peuple juif s'il manque une partie. Et donc, eh bien, cette relbena, quand tu la mets avec les autres, non seulement elle ne va pas donner une mauvaise odeur, mais elle va donner encore une meilleure odeur à tout le tout. En d'autres termes, les réchaïm, c'est sûr que si tu les exclus, ils vont être encore plus réchaïm. La thérapie que nous dit la Torah, c'est prends le rachat, mets-le avec des gens bien. Mets-le avec des gens bien, tu verras, ça va le calmer. C'est la raison pour laquelle dans la Torah, il n'y a pas de prison. Quelqu'un qui aurait fait un vol et qui ne peut pas rembourser, ne va pas en prison pour apprendre à être encore pire. Non, il va être astreint à travailler, faire des travaux d'intérêt général dans une famille bien, pour être en contact avec des gens bien. C'est de cela qu'on parle. La Ktoret nous permet de rassembler tout le clan d'Israël. Et lorsqu'on rentre, eh bien, dans le Kodesh HaKodeshim, il y a un autre ustensile. Cet autre ustensile, ben évidemment, vous avez compris de quoi je parle. Il s'agit, hop là, de Aaron Abrit. Bien évidemment, Aaron Abrit. Alors, Aaron Abrit, alors que le Machon Amigdash a fait tous les ustensiles du Beth Amigdash, prêts à l'emploi, comme je l'ai dit, la table des pains, elle est faite, comme la menorah, le Mizbeach HaKtoret, il est prêt, tout est prêt. Machon Amigdash a décidé de ne pas refaire de Aaron Abrit. Lama, eh bien, pour une raison très simple. Vous pouvez le voir ici sur l'illustration. En l'an -630, Yoshiyahu, Melech Yehuda, Yoshiyahu, roi de Judée, ayant appris par la prophétesse Hulda que les Babyloniens vont arriver et vont détruire le Beth Amigdash, eh bien, il décide de prendre la menorah, de prendre l'Aaron Abrit, et de le cacher dans une salle souterraine qui avait déjà été mise en place par Salomon sous le mont du Temple. Ainsi, lorsque les Babyloniens arrivent et qu'ils détruisent le Beth Amigdash, ils ne peuvent pas prendre l'Aaron, ils ne la trouvent pas. Si bien que dans le deuxième temple, il n'y aura pas de Aaron Abrit. Il n'y aura pas d'Arche d'Alliance dans le Kodesh HaKodashim dans le deuxième temple. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'on ne l'a toujours pas retrouvé. Donc, pas d'Aaron Abrit dans le deuxième temple. Et donc, pas besoin de reconstruire l'Aaron Abrit d'après le Machon Amigdash, parce que lorsqu'il faudra la trouver, eh bien, on la trouvera et on pourra à ce moment-là la mettre en place, celle que Moshe a créée, celle que Betzalel a créée, et à ce moment-là, on pourra la remettre en place dans le troisième Beth Amikdash. Bezrat Hashem, bimera, beyamenu, amen. Et je pourrais m'arrêter là. Sauf que maintenant qu'on a parlé des ustensiles, des bgadim, on n'a pas parlé de M. Cohen Gadol et de son boulot tout à fait particulier le jour de Yom HaKippurim. Et ça sera notre visite de la semaine prochaine. À bientôt.